VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité hors d'Afrique. Au Proche-Orient, de violents combats ont opposé dans le nord de la Syrie ce mardi les forces du régime de Damas à celles de la Turquie. Les premiers affrontements entre l'armée nationale syrienne et les troupes turques qui sont entrées le 9 octobre dans le territoire syrien bordant la frontière entre la Turquie et la Syrie. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats se déroulent aux abords du village d'Al-Assadiya, près de la frontière syro-turque. Des tirs d'artillerie des forces d'Ankara ont visé les troupes du régime syrien, ce qui a conduit à des affrontements entre les forces terrestres des deux camps. Les troupes turques sont entrées dans la zone frontalière syrienne au début du mois pour chasser les milices kurdes de ce secteur. Et toujours concernant le nord de la Syrie, deux hommes ont été capturés lors du récent raid américain qui a conduit à la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. C'est ce qu'a affirmé hier le chef d'état-major interarmes des États-Unis, le général Mark Milley. Plus de détails avec Eki Abadou.
Deux hommes ont été capturés lors de l'assaut et nous les détenons dans un endroit sécurisé, a déclaré le général Mark Milley lors d'une conférence de presse au Pentagone pour donner les détails de l'opération dans le nord-ouest de la Syrie. Les forces américaines ont découvert que Baghdadi se cachait dans un tunnel. Le groupe d'assaut s'est rapproché de Baghdadi et a stoppé lorsqu'il a fait exploser sa ceinture explosive, a raconté le général. Les restes du chef de Daesh ont alors été transportés dans un endroit sécurisé pour faire confirmer son identité grâce à des analyses ADN, a-t-il ajouté. Il a assuré que l'assaut a été mené uniquement par des militaires américains. La situation sécuritaire en Syrie reste complexe, a déclaré le ministre de la Défense, Mark Esper, car de nombreux acteurs étatiques et non étatiques se disputent le contrôle des territoires et des ressources de ce pays. Le califat autoproclamé a été déclaré vaincu par les Américains en mars dans son dernier réduit en Syrie.
La lutte contre les djihadistes en Afrique maintenant. En Égypte, 13 djihadistes présumés ont été tués dans une opération des forces de sécurité égyptiennes dans le nord de la péninsule du Sinaï, où une branche du groupe État islamique est active. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministère égyptien de l'Intérieur. Selon les autorités, la police a attaqué une ferme abandonnée d'Al-Arish, le chef-lieu du nord Sinaï, dans le cadre de l'opération. Des armes et des explosifs ont ensuite été découverts sur place. On n'a pas donné de détails sur la date des affrontements et les forces engagées sur le terrain. Rappelons que l'Égypte a lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste, en particulier dans le nord du Sinaï, où une insurrection armée a pris de l'ampleur après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée en 2013. Et toujours concernant le combat anti-djihadiste en Afrique, au Maroc, la police a annoncé lundi qu'une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique qui a été démantelée vendredi dernier comptait attaquer des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca, la grande métropole du pays. Selon les autorités, des équipements de plongée, un zodiac, des cagoules ainsi que des armes et des munitions ont été saisis pendant les perquisitions. Le chef présumé de la cellule était un maître nageur. Au Mali, une demi-douzaine d'enseignants qui avaient été enlevés vendredi dans leur école du centre du pays par des djihadistes présumés ont recouvré la liberté. Par ailleurs, la MINUSMA, la mission onusienne sur place, a annoncé qu'un casque bleu togolais a succombé à ses blessures. Le point avec Irénée Amanoumbo.
Dans un communiqué, le gouvernement du Mali informe de la libération effective des enseignants enlevés le 25 octobre lors de l'attaque des établissements scolaires de Korientze par des individus armés. 6 enseignants selon des sources locales, 5 selon le gouvernement malien, ont été enlevés par des assaillants venus nombreux, armés et à moto, jusque dans leur école au nord de Mopti. Ils avaient mis le feu au matériel scolaire dans la cour de l'école. Quelques 920 écoles sont fermées au Mali, dont plus de 2/3 dans le centre du pays. Par ailleurs, un casque bleu togolais blessé le 6 octobre lors d'une attaque de djihadistes présumé a succombé hier à ses blessures. Le porte-parole de la mission de l'ONU, Olivier Salgado, a annoncé la nouvelle sur Twitter, rappelant que le soldat togolais avait été grièvement blessé et évacué vers un hôpital de Dakar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La mort du chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi, annoncé dimanche par le président américain Donald Trump, est considérée comme un coup dur pour l'organisation, qui avait déjà perdu la quasi-totalité du territoire qu'elle avait conquis en 2014. Mais beaucoup estiment que le groupe terroriste a toujours une capacité de nuisance. Beaucoup de jeunes Africains étaient partis se battre pour le groupe djihadiste en Irak, en Syrie et en Libye. Que sont devenus ces Africains anciens combattants de Daesh? Ilisfa l'a posé la question au professeur Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute.
Nous avons fait peu de recherches sur le sud libyen qui, à un moment, était devenu le refuge de ces mouvements-là. Aujourd'hui, il y a une confusion totale sur le nombre, mais aussi sur l'itinéraire. Si on sait que des jeunes Sénégalais, des jeunes Burkinabés, des jeunes Nigériens étaient présents dans ces groupes-là, que sont-ils devenus, c'est une grande question. Mais tout le monde sait que le déploiement de Abu Walid al-Sahraoui avec l'État islamique au Grand Sahara, une forme de mondialisation des idées de l'État islamique et que le projet était bien clair. Une expansion au sud du Sahara, mais aussi dans l'espace sahélien.
Dans l'ouest du Mali, émir du Grand Sahara.
Absolument. Je crois que là où peut-être l'administration américaine pourrait se tromper, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une Kalachnikov qui a tué une idéologie. Le plus important, c'est lutter contre les causes structurelles de ce djihadisme et du terrorisme, promouvoir la bonne gouvernance, combattre les inégalités horizontales, combattre les frustrations, avoir beaucoup plus de justice au niveau international par rapport à certaines causes. Même si al-Baghdadi a été tué, ses idées vont continuer à inspirer des mouvements et c'est déjà le cas aussi bien pour Boko Haram, aussi bien pour les dissidents de Boko Haram, mais aussi Adnan Abou Walid al-Sahraoui qui est à la tête de l'État islamique au Grand Sahara.
Le professeur Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute. Afrique centrale maintenant. En République centrafricaine, des dizaines de milliers de personnes sont sans abri, notamment à Bangui, la capitale, après des inondations inédites en 20 ans. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Croix-Rouge centrafricaine, le gouvernement faisant état, lui, d'une grande catastrophe naturelle. Les inondations sont dues à la conjonction de pluies exceptionnelles et incessantes depuis une semaine et la crue décennale de l'Oubangui et ses affluents. Le dernier bilan fait état de 28 000 personnes sans abri dans tout le pays, a souligné le pasteur Antoine Mbao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. À Bangui, qui compte environ 1 million d'habitants, des quartiers entiers sont transformés en marécages. Selon le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, l'Oubangui est sorti de son lit et les rivières qui vont s'y jeter ne peuvent plus le faire. D'où un phénomène de débordement intense, a déclaré ce haut responsable. Tous les 10 ans, l'Oubangui, la principale rivière du pays, connaît une crue majeure. Cette année, le phénomène est aggravé par les précipitations exceptionnelles en durée et en ampleur pour la saison. Actualité américaine, la Chambre des représentants ici à Washington votera jeudi pour la première fois en séance plénière sur une résolution qui réaffirme l'enquête en cours sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. La résolution autorise pour la première fois des auditions publiques. Eric Manirakiza.
Dans le cadre de cette nouvelle étape, la résolution énoncera les droits garantis au président et à sa défense, a précisé la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans une lettre à son groupe parlementaire. Qualifiant depuis des semaines cette enquête de chasse aux sorcières, la Maison-Blanche et les Républicains ont vu dans cette annonce l'admission que la procédure n'était pas en règle. Les démocrates, eux, affirment qu'il s'agit d'encadrer une nouvelle phase de cette procédure. L'opposition démocrate cherche depuis fin septembre à établir si le président républicain a abusé de son pouvoir à des fins personnelles quand, selon elle, il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden. Elle mène à huis clos des auditions à la Chambre, à majorité démocrate, devant les membres républicains et démocrates des commissions chargées de l'enquête. À son terme, la commission judiciaire de la Chambre sera chargée, le cas échéant, de définir et de présenter les chefs de la mise en accusation du président, ou impeachment en anglais. Un vote sera alors organisé en séance plénière. Si l'impeachment est approuvé, le Sénat, à majorité républicaine, devra organiser le procès de Donald Trump sur son éventuelle destitution.
Et vous terminez en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson va à nouveau tenter ce mardi d'obtenir des élections anticipées en décembre pour sortir le Brexit, le projet de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne de l'impasse actuelle qui a abouti à un troisième report de la sortie du Royaume-Uni. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.